Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Et la question du jour est: qu'est-ce que la bêtise humaine et d'où qu'elle vient? Même les plus savants des scientifiques et des philosophes ne savent pas répondre à cette question pourtant très simple. Et si la bêtise n'était ni une fatalité, ni une caractéristique inhérente au genre humain, mais juste un virus? Un vilain virus qu'on chope et qu'on refile depuis des siècles et des siècles. Voilà une hypothèse intéressante. Dans une bande dessinée aussi drôle qu'intelligente, plane l'idée qu'on pourra peut-être un jour cerner les mécanismes de ce vilain virus et se libérer de la bêtise, ne serait-ce que pour mourir moins bête, puisqu'on doit mourir quand même. Tiphaine Rivière nous entraîne dans une drôle de quête dans sa bande dessinée éditée par Le Seuil, qui a pour titre « L'invasion des imbéciles ».
Le réveil culturel. Vendredi, bande dessinée.
Bonjour Tiphaine Rivière.
Bonjour.
Bon, alors, on a vu au cinéma L'invasion des profanateurs de sépulture de Jack Fenney. On a peut-être vu un autre film de série Z que j'aime beaucoup, L'invasion des araignées géantes. Il s'agit de tout à fait autre chose dans L'invasion des imbéciles, hein, même si, il faut le dire, votre bande dessinée Tiphaine Rivière, éditée par Le Seuil, emprunte quelques codes au film fantastique, avec des extraterrestres et des morts qui n'arrivent plus à être reçus dans l'au-delà, mais ça verse plutôt dans la satire sociale. C'est pour parler de la bêtise humaine d'aujourd'hui, non, que vous avez fait cette bande dessinée?
Oui. Au départ, j'ai fait une thèse sur la bêtise pendant 3 ans, que j'ai abandonnée. Et à la fin, ce qui m'en ressortait, c'était un certain nombre de types de bêtises auxquelles je repense tout le temps. Soit parce que je les vois chez moi, soit parce que je les vois chez les autres. Et ça permet pas de s'en extraire soi-même, ni de faire quoi que ce soit pour qui que ce soit. Mais juste de le savoir, j'ai l'impression que c'est vraiment important pour avancer, réfléchir à comment on pourrait s'en extraire. Enfin, j'y arrive pas, mais je me disais que ça pourrait être intéressant d'exposer ça aux gens. Les 12 formes de bêtises que moi j'ai trouvées pendant ma thèse.
Et s'il fallait parler de ces formes de bêtises, Tiphaine Rivière, parce que c'est tout un continent, les bêtises ou la bêtise humaine.
C'est pour ça que j'avais arrêté la thèse, c'est que c'est un concept qui est très poreux. Et du coup, dès que j'en prenais une, en fait, elle se mélangeait à d'autres. Ça veut dire que comme tout est lié, j'arrivais pas à avancer. Et la différence entre une thèse et la BD, c'est que là, j'ai des personnages. Et du coup, à chaque fois, ils échappent au concept que je raconte. Ça veut dire que Yvonne le Tigre, qui va exposer les 12 formes de bêtises en suivant ces gens, à chaque fois, elle essaye de plaquer une forme de bêtise sur les gens qu'on voit. Mais en fait, les gens sont infiniment plus compliqués que ce qu'elle va en raconter. Et ça permet de garder la complexité de ce que sont les gens, tout en expliquant quels sont ces mécanismes qui bloquent notre manière de penser.
Vous êtes à la base universitaire, vous avez fait des études poussées, mais il faudrait tout de suite préciser que c'était des études de lettres. Hein, parce que oui. Ce n'est pas... parce qu'à un certain moment, on a l'impression que vous abordez la question de la bêtise humaine en tant que scientifique.
De sciences dures, vous voulez dire?
Ouais. Dans le sens où vous faites planer cette idée qui est le ressort dramatique de cette bande dessinée, c'est le tome 1 qui sort, hein, il va y avoir 3 tomes, l'invasion des imbéciles, que peut-être ce n'est qu'un virus et qu'on peut se débarrasser de ce virus et donc de la bêtise qui est en chacun de nous et de la bêtise humaine qui peut parfois être fatale.
Ça, c'est l'hypothèse que pose l'héroïne pour se sortir d'une situation délicate.
On va parler de cette héroïne de 107 ans, mais à travers l'héroïne, c'est aussi la question que vous êtes posée, Tiphaine Rivière, non?
Pour moi,
c'est
tout sauf un virus. C'est vraiment une... pour moi, c'est structurel. On ne peut pas être humain sans avoir ce virus, s'il en est un. Parce que, en fait, la bêtise, ce n'est pas le contraire de l'intelligence. Ils utilisent les mêmes manières d'avancer, en fait. Par exemple, un scientifique qui va être obsessionnel de son sujet, on va dire que c'est une manière d'accéder à... c'est une forme d'intelligence, mais c'est exactement la même chose qui va se passer dans la bêtise, qui est la focalisation de l'intelligence sur un unique objet au détriment de tout ce qu'il y a autour. En fait, à chaque fois qu'il y a une forme d'intelligence, il a sa forme de bêtise à coller, et c'est exactement les mêmes mécanismes qui sont à l'œuvre. Et du coup, tout l'intérêt, c'est de comprendre à quel moment ils divergent ou sur quoi. Mais les deux ne sont pas vraiment dissociables, en fait.
Mais rassurez-moi, il y a quand même des gens plus bêtes que d'autres.
Bah, ça dépend
ou moins
sur
bêtes
quel
que d'autres.
Critère. Ça dépend sur quel critère. C'est pour ça qu'au départ, je voulais en mettre 12, qui sont que l'intelligence conceptuelle, celle au départ qu'on considère être la bêtise de base, c'est un crétin parce qu'il ne comprend rien. au départ, on considère qu'il n'y a que cette forme de bêtise qui existe. Et il y a beaucoup de philosophes qui ont commencé à comprendre que la bêtise qui posait problème, c'était pas celle-là. Parce que quand on a cette forme de bêtise, on peut pas agir, en fait. C'est-à-dire que ces gens-là peuvent pas...
être méchants, voilà.
Ils peuvent être méchants, mais en général, ils n'arrivent pas à aboutir à ce qu'ils veulent. Et donc, du coup, ça les rend relativement stériles, donc c'est pas dérangeant, en fait.
Inoffensif, ouais.
Le problème, c'est quelqu'un qui a vraiment les moyens de mettre en œuvre ses fins imbéciles. Quelqu'un qui est extrêmement intelligent, mais qui met son intelligence au service de causes imbéciles, va être quelqu'un de particulièrement dangereux. Mmh. C'est pour ça qu'ils veulent le tigre. Dit aux extraterrestres que les gens les plus intelligents sont aussi les plus dangereux. C'est que ces gens-là sont contagieux parce que leur cause et leur fin, ils sont capables d'en les mettre en œuvre et de donner envie aux gens de s'associer à eux.
Ceci dit, ça reste quand même une bande dessinée, l'invasion des imbéciles, avec un personnage, une intrigue, un voyage de troisième type. Mais restons sur vos 12 formes de la bêtise ou du virus, puisque là, dans votre bande dessinée, ça prend le visage d'un virus, l'hypothèse que ça pourrait être juste un virus. Alors, en 12e position, il y a la bêtise collective et l'effet de foule. Oh là là, on est vendredi, veille d'un samedi. On passe tout de suite à la 11e. La peur de l'inconnu pour nous rendre imbéciles.
En fait, là, on est en train de parler comme si je pouvais vous les expliquer toutes. Mais si j'ai fait précisément une bande dessinée, c'est parce que je ne suis pas capable de parler comme ça pour expliquer les choses. Parce
que je sais
que
vous avez travaillé très sérieusement là-dessus, Tiffany
Rivière. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il y a différentes manières d'exprimer les choses. Et moi, si je me suis écroulée en thèse, c'est parce que ma pensée est confuse quand je l'exprime comme ça. Je ne sais pas raconter les choses dans leur complexité. Alors qu'en fait, quand je le fais en dessin et que je peux avoir... des métaphores, des personnages, je sais que je peux beaucoup plus facilement arriver à dire des choses qui sont difficiles à exprimer. Si je vous dis la peur de l'inconnu, c'est un concept que Robert Musil a exprimé. Si je vous l'explique, là, vous allez être déçus parce que si je suis à la radio et que vous me demandez de l'exprimer, je vais m'embrouiller dans mes mots.
Et quand ça passe par la bande dessinée, c'est-à-dire une histoire imaginée, du dessin.
Là, en fait, pour moi, c'est beaucoup plus intuitif de reprendre la pensée de quelqu'un et de l'expliquer de façon plus simple et plus accessible, mais en gardant des choses poreuses qui font que il y a des choses qu'on peut ressentir sans être capable de les exprimer, mais ça n'empêche pas qu'on les a comprises à ce moment-là, en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
Attendez. Oui, je crois. La futilité fait partie des 12 formes de la bêtise pour vous, Tiffany Rivière.
Oui. En fait, c'est pour Deleuze que ça fait partie des 12 formes
absolument,
de la bêtise.
Absolument, que vous citez. D'ailleurs, oui. Vous citez d'autres philosophes. Vous êtes d'accord avec lui?
Je trouve que la façon qu'il a de le dire est très juste. C'est que ce qu'il dit, c'est il y a pire que de ne pas savoir résoudre un problème. Il est de se poser un faux problème. En deçà de l'erreur, il y a tous ceux qui se posent des questions qui ne posent pas réellement problème.
Alors, pour réfléchir sur ces questions philosophiques complexes, vous avez décidé de passer par une bande dessinée et surtout par un personnage incroyable, cette vieille Yvonne de 107 ans. On ne sait pas si, au début de cette bande dessinée, elle meurt ou pas. D'ailleurs, la mort est un concept assez étonnant dans votre univers, Tiffany Rivière. C'était pas donné à tout le monde de mourir et d'aller à l'au-delà. Encore faut-il faire ses preuves, si j'ai bien compris.
C'est parce que, avant de mourir, ma grand-mère était très angoissée alors qu'elle était très chrétienne. Et du coup, on s'est demandé si elle avait peur de se retrouver en face de Krishna ou quelqu'un qui n'était pas du tout sa culture. Et ça m'avait donné cette idée de quelqu'un qui meurt et qui se retrouve dans un univers totalement inattendu où il n'a aucun code pour réagir. Et...
C'est très drôle, le moment où on dit « Mon Dieu, pourvu que j'ai prié le bon Dieu pendant, pendant toute ma vie, ma longue vie d'ailleurs, 107 ans. » Et ça se passe en Bretagne.
Et ça se passe en Bretagne.
Vous êtes donc bretonne, Tiffany Rivière.
Oui.
Je ne sais pas comment ils vont le réagir.
Ouais, c'est juste parce que j'avais envie de dessiner la Bretagne.
Ouais, d'accord.
C'est vraiment un endroit prétexte. Plutôt que...
C'est pas des règlements de compte avec...
C'est pas des règlements de compte.
Avec le maire d'une petite ville, non. Avec... Bon, d'accord.
Et alors, en plus, enfin, le sujet, il est glissant parce que j'ai l'impression que quand on parle de la bêtise, on peut vite donner l'impression qu'on se place au-dessus de des gens ou qu'on va dire qui est idiot ou pas. Et en fait là c'est pas du tout le propos, déjà parce que je pense que tout le monde a la plupart de ces formes de bêtises, mais aussi parce que j'ai fait en sorte, et je pense que c'est comme ça dans la vie aussi, que les gens soient le plus attachants possible, qu'on se dise pas c'est un crétin simplement, mais qu'on aime bien ses projets, qu'on a envie de comprendre qu'est-ce qu'il fait, qu'on rit avec lui et pas seulement de lui en fait.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
L'imbécile de bonne souche mesure 6 pieds de hauteur. Il peut exprimer par la bouche le plaisir comme la douleur. Il peut exprimer par la bouche le plaisir comme la douleur. N'ayant ni plume ni pelage contre la froidure et le vent, il couvre son corps de lainage qu'il appelle des vêtements. Il couvre son corps de lainage qu'il appelle des vêtements. Selon de très anciens grimoires, la peste en a tué beaucoup. Il se reproduit sans histoire de la même façon que nous. Il se reproduit sans histoire de la même façon que nous. Il existe des imbéciles de toutes sortes, évidemment. On en rencontre dans les villes, à la campagne également. On en rencontre dans les villes, à la campagne également. Dieu vous préserve de sa rage si vous le blessez par hasard. Il est terrible quand il charge, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Il est terrible quand il charge, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Car à l'encontre des panthères dont ils ont la férocité, les imbéciles sur la terre vont et viennent en liberté. Les imbéciles sur la terre vont et viennent en liberté. Les imbéciles ont des femmes et leurs femmes ont des amants. Ce qui provoque bien des drames comme chez l'homme exactement. Ce qui provoque bien des drames comme chez l'homme exactement. Il en est qui font des affaires et qui se déchirent entre eux. D'autres qui rêvent solitaires, ce sont les imbéciles heureux. D'autres qui rêvent solitaires, la 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 la. Que chacun de vous se rassure, car si ce monstre fut légion, je vous dois la vérité pure, il n'y en a plus dans la région. Je vous dois la vérité pure, il n'y en a plus dans la région.
Elle a raison, Juliette Gréco, Tiffaine Rivière. On vit l'invasion des imbéciles, pour reprendre le titre de votre bande dessinée, éditée au Seuil. Bien entendu, c'est une farce, c'est une enquête philosophique. Pour le côté sérieux, c'est une vraie enquête quand même philosophique sur les ressorts de la bêtise. Mais vous l'humanisez, cette bêtise. Hein. Vous culpabilisez personne. Vous n'êtes pas là pour distribuer des bons et des mauvais points. Il faut faire avec. C'est ça?
C'est ça.
C'est ça la conclusion de ce premier tome sur 3?
J'ai beaucoup hésité, mais finalement j'ai fait en sorte que l'héroïne assume la deuxième forme de bêtise comme les autres, pour montrer qu'en fait la bêtise c'est pas forcément quelque chose de négatif, ça peut être aussi ce qui fait la vie, ce qui fait que quelqu'un est attachant, ce qui fait que quelqu'un est truculent, exubérant.
Oui, mais sauf que voilà, un exemple. Les bêtises de Sabine Paturel n'ont rien à voir avec les bêtises de Donald Trump, quoi.
Évidemment. Et c'est, en fait, il y a quelque chose qui m'a beaucoup influencé, c'est Belle du Seigneur de Albert Cohen. Parce que, en fait, ce qu'il fait dans le livre, c'est qu'il raconte la bêtise de Adrien Deume, qui est un fonctionnaire qu'on suit dans sa vie personnelle et au travail, etc. Et en fait, il y a plein de situations dans lesquelles ce qu'il fait, c'est juste drôle parce que ça touche rien. En fait, c'est pas problématique qu'il soit comme ça. C'est juste un peu ridicule pour lui socialement parce que il va essayer de séduire des gens avec qui ça va pas avoir d'impact, etc.
Comme dans votre bande dessinée.
Dans ma bande dessinée, ouais, mm-hmm. C'est vraiment mon livre préféré. Et en fait, en parallèle, on voit que la même forme de bêtise qui fait que chez Adrien Deume, c'est pas vraiment un problème, devient extrêmement grave parce que ça se passe en 36, Belle du Seigneur. Et qu'en plus, il bosse à la SDN. Et du coup, on commence à comprendre que certains fonctionnements qu'il a, qui nous font juste rire quand il s'agit de bêtises sociales, devient extrêmement dangereuse et
criminelle.
Mmh. Et en fait, chaque forme de bêtise, et moi c'est là que je veux en venir, c'est que chaque forme de bêtise, elle peut être vue d'abord dans un contexte comme celui-là qui va être juste drôle parce que c'est dans la sphère privée, etc. Si jamais tout d'un coup on la déplace dans la sphère publique et si jamais on en met plusieurs en même temps, qu'est-ce qui se passe? Et c'est ça que j'aimerais bien explorer dans les tomes d'après.
Alors nous, on voudrait en savoir un peu plus sur vous, Tiphaine Rivière, parce que L'invasion des imbéciles est votre deuxième bande dessinée. Vous avez sorti il y a quelques années un premier roman graphique à succès d'ailleurs, qui s'appelait Carnet de thèse, où vous expliquiez comment vous qui étiez promu à une carrière universitaire, vous avez tout laissé tomber pour vous consacrer à la bande dessinée. Enfin, tout laisser tomber, peut-être que c'est exagéré.
Enfin, en thèse, on apprend comment les écrivains écrivent, en fait. Quel est leur style, comment ils créent l'identification ou pas. Enfin, plein de choses assez techniques aussi. Et du coup, j'y repense tout le temps, parce que c'est ça qui me permet d'écrire des scénarios en essayant de trouver des formes différentes. Mais j'ai tout arrêté parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, je ne suis pas douée pour expliquer quelque chose comme un universitaire. Et du coup, dans cet univers, quand on est comme ça, il n'y a pas beaucoup de place et c'est normal. Et un jour, j'ai commencé à faire des bandes dessinées pour un anniversaire. Et j'ai tellement aimé que pendant un mois, en fait, j'ai fait que ça.
Alors qu'on n'avait jamais fait de dessin.
Comme un pied, vraiment. Enfin, j'avais arrêté à 15 ans, quoi. À 14 ans, comme tout le monde. Et en fait, ça m'a tellement plu que ça m'a vraiment marqué que ce soit la première fois depuis des années et des années que j'étais très vivante. En fait, la nuit, je me réveillais pour résoudre les problèmes. Du coup, j'ai arrêté la thèse pour faire ça. Au grand désespoir de mes proches, parce qu'ils se disaient, après 3 ans de thèse, à un moment, il ne faut pas se lancer dans le dessin sans savoir dessiner, etc. Mais finalement, j'ai l'impression que quand c'est sa manière de penser, de fonctionner, les choses se passent beaucoup plus vite. Du coup, j'ai l'impression d'avoir réussi à apprendre à dessiner vite parce que j'avais vraiment envie de le faire. Et que du coup, c'était pas comme la thèse où j'étais à la bibliothèque et après je rentrais chez moi et j'oubliais complètement ce que j'étais en train de faire. C'est un truc que je pouvais faire tout le temps, tout le temps, tout le temps.
Mais la bande dessinée, c'est pas seulement dessiner, c'est avoir une histoire, réfléchir à un découpage, créer des décors, soigner une dramaturgie. Tout ça, vous l'avez appris toute seule derrière un écran d'ordinateur, Tiphaine Rivière?
Une grande partie, ça vient de la thèse, parce qu'on peut transposer ce qu'on a appris sur les romans au scénario. Si je me dis, je vais faire un passage où j'essaye de prendre le style de Proust, mais de le mettre en dessin, bah, ça me permet d'explorer des choses. Si je me dis, je vais faire Albert Cohen, mais le style adapté, ça me permet d'explorer des choses. Et après, pour tout ce qui est technique, c'est plus que j'ai recopié des tonnes de BD, mais en bonhomme bâton, pour voir comment il faisait.
Quel genre de bande dessinée ?
Johann Sfar, beaucoup, parce qu'il fait plein de plans différents.
Et on la remarque un peu à l'influence de Johann Sfar.
C'est vrai ?
Ouais. Ce qui peut être qu'un compliment.
Ah oui, je suis très contente. Bon.
Mais j'ai appris que c'était, en passant par un autre auteur de bande dessinée révélé par son blog, Boulet, que vous êtes passé de l'auteur de bande dessinée chez elle à une auteure qui veut partager ses idées, ses dessins, ses histoires. Comment ça s'est passé ?
Non, en fait, lui, c'est juste que je lui ai envoyé un mail pour lui demander s'il pouvait me faire des retours sur carnet de thèse, mais j'avais déjà le contrat. En fait, j'ai fait un blog et mon éditeur est tombé dessus. Et du coup, il m'a proposé de faire la BD. Mais c'était plus un peu comme un travail.
Faut dire que votre blog a eu un certain succès.
Dans les milieux universitaires, il y avait des gens qui le lisaient. Oui.
Et puis ensuite ?
Ensuite, du coup, il m'a proposé de faire ça. Il avait invité tous les gens qui faisaient des blogs sur la thèse. Du coup, je suis allée le voir. Et comme moi, je voulais vraiment faire de la bande dessinée, alors que les autres étaient des universitaires, je lui ai dit, moi, je veux vraiment, 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 vraiment le faire. Et du coup, il m'a donné le contrat. Mais ensuite, ça doit passer par plein de strates de comités de lecture, etc. Et il se trouve que tout le monde avait fait une thèse, en fait. Même le directeur commercial du Seuil avait fait une thèse. Et du coup, elle est passée là-bas, alors que sinon, avec ce sujet, apparemment, personne n'aurait voulu la publier.
Vous dessinez avec la palette graphique, je suppose ?
Oui.
Directement ?
Directement. Mmh. Parce que, bon, déjà, ça permet d'effacer autant qu'on veut. Mais surtout, comme ça prend beaucoup de temps de faire de faire une BD avec autant de pages, etc. En fait, il y a des moments où je peux prendre des photos d'un endroit, même de mon salon, celui de mes parents, ma grand-mère, n'importe qui.
Ou de votre bled en Bretagne.
Mon bled en Bretagne. Et en fait, c'est beaucoup plus rapide de dessiner quand on a une photo à côté ou en dessous du dessin. Ça fait que je peux faire un plan vu d'en haut et dessiner au-dessus avec mon style. Mais du coup, la perspective va être parfaite. Ça fait qu'avec ces moyens-là, en fait, quand on dessine un peu sur le tard, à partir du moment où on sait placer les personnages dans un décor, finalement, on pourrait prendre plein de photos et redessiner par-dessus.
Et pour les personnages, vous avez des modèles. Par exemple, pour prendre Yvonne, cette héroïne, si particulière de 107 ans ou le maire du petit village qui nous rappelle un ancien président de la République. Vous avez des modèles ou c'est tout est le fruit de mon imagination?
Non, vous parlez de leur personnalité?
Leur physique, oui, leurs caractéristiques.
Bon, physiquement, pas plus que ça. Enfin, elle, en tout cas, c'est juste qu'on m'a dit, il faut que ton héroïne, même schématisée, on se dise, ah, c'est Yvonne le Tigre. Et du coup, je lui ai fait des lunettes un peu spéciales avec un petit nœud dans les cheveux rouges, qui fait que même un enfant qui la dessinerait, en fait, ce serait tout de suite clair pour tout le monde que c'est elle. Donc voilà, c'était ça le... Mais après, physiquement, je sais pas. Ensuite, pour les personnalités, je trouve qu'il y a pas mal de vieilles dames qui ont la sienne, qui ont vécu plein de choses, qui sont revenues de tout, et du coup, qui ont l'air d'être... une force immense dans un corps tout pourri, en fait, qui est en train d'avancer leur carcasse malgré tout.
Mais vous le représentez très bien, ça, Tiffaine Rivière. Mais il y a aussi, j'ai pas envie de dire tout ce qui est surprenant dans votre bande dessinée, mais on peut parler d'extraterrestre. Allez, on va appeler ça, c'est un terme générique. Il y a aussi une manière très spéciale pour vous de représenter ces êtres qui ne sont pas des êtres comme nous.
Oui, en fait, je voulais que ce soit des personnages qui ressemblent, qui soient pas complètement anthropomorphiques au départ. Du coup, j'en ai fait où on pouvait même pas voir s'ils avaient des yeux, etc. Et je l'ai fait lire à des gens autour de moi. Et du coup, ils accrochaient pas avec. Donc, je suis revenue un peu en arrière et j'ai rajouté des choses dont on peut penser que c'est des yeux, on peut penser que c'est une bouche et tout. Et en fait, je les ai retravaillés au fur et à mesure jusqu'à ce que je me dise, quand je les vois, ils me font rire physiquement. Et du coup, maintenant, je suis assez contente de leur tête, mais ça a pris du temps. Avant, ils ressemblaient vraiment à rien. Et plus je les dessine, plus dans ma tête, leur univers se dessine aussi, parce que maintenant, j'ai envie de les faire exister, j'ai envie de les faire venir, j'ai envie de créer... Enfin, à chaque fois, en fait, quand je suis une hypothèse dans le scénario, je réalise que ça peut en ouvrir d'autres. Et du coup, c'est difficile de sélectionner, quand on crée un monde, tout ce que ça ouvre.
Et, comme possibilité,
ouais. Ouais. Ce que j'aime bien savoir quand les gens ils l'ont lu, c'est plus d'extraterrestres ou moins d'extraterrestres, par exemple, ce genre de questions, parce que il va y avoir des gens qui vont être ennuyés de leur présence en disant nous on veut voir les vrais humains, on veut se voir nous en fait, et d'autres qui aiment bien justement les passages plus absurdes où c'est les extraterrestres qui vont avoir une vision extérieure du monde des humains que moi j'aime bien présenter, mais voilà, je sais pas trop. Comment mixer ?
Et aujourd'hui, Tiffaine Rivière, toujours pas de regret d'avoir laissé tomber votre carrière universitaire pour vous lancer dans l'aventure, parce qu'on peut parler d'aventure.
Hein. Moi, j'avais aucune chance en fait à l'université. Du coup, c'est au-delà du regret, c'est que c'était pas un vrai choix. J'ai échoué là-bas par manque de capacité à savoir ce que je voulais faire ou à me lancer dans la vie active. Du coup, je suis juste désolée de l'avoir pris autant de temps à...
Et comment vous accueille la communauté des dessinateurs professionnels de la bande dessinée ?
C'est une communauté qui est très, très bienveillante. C'est plus
vis-à-vis parfois... des gens qui n'ont pas fait les mêmes écoles, c'est ça ? Qui viennent d'ailleurs, comme vous, Tiffaine Rivière ?
Je sais pas comment dire ça. Ça veut dire que souvent, les gens, ils parlent pas vraiment du travail des autres. C'est plus festif parce qu'on se voit dans les festivals ou les rencontres. Du coup, c'est plus, on passe du temps ensemble, on parle de comment on fait de la BD, mais il n'y a pas vraiment de gens qui vont me dire ton dessin est ridicule, etc. Alors que sur Internet, quand j'ai sorti Carnet de thèse, parce que les gens pensaient que c'était moi l'héroïne en plus, ils me parlaient de façon très intime, c'était bizarre, où ils disaient « Reviens quand tu auras appris à dessiner, mais de toute façon je pense que ça arrivera jamais, tu sais, tu ne sauras jamais tenir un crayon, etc. » Ou des trucs vraiment personnels comme... c'est tellement mou ta personnalité, franchement, mais quand on voit que t'es incapable d'agir, ça fait pitié.
Je suppose que le succès de Marion Montaigne vous a rassuré.
Pourquoi elle a eu ça aussi? Sur le dessin, mais Marion Montaigne, elle a fait Les Gobelins, c'est une bombe du dessin. Moi, je donne tout ce que j'ai là, alors que elle peut faire des dessins et des peintures exceptionnelles, et c'est elle qui décide de faire ce style. Donc on n'est pas vraiment dans la même situation.
Vous avez parlé de festival, vous allez à Angoulême la semaine prochaine ?
Oui.
Nous y serons toute la semaine prochaine. Le réveil culturel sonnera à Angoulême à l'occasion donc du Festival international de la bande dessinée. On évoquera dès lundi ciné, ses mémoires réunies dans un très beau coffret avec deux gros volumes, une très très jolie édition de Frédéric Pajac des Cahiers dessinés. Mardi, on parlera des années Futuropolis avec Étienne Robial et Florence Sestac pour marquer l'ouverture de l'expo au musée de la bande dessinée d'Angoulême autour de cette incroyable aventure éditoriale. Le mercredi cinéma sera consacré au grand Miyazaki. Le jeudi, on verra comment des dessinateurs tentent de faire entendre de la musique à travers leurs dessins. Et vendredi, à l'ombre de Batman, qui aura droit à une grande expo à Angoulême, on ira à la recherche des super-héros d'aujourd'hui. Qui sont-ils? Où se cachent-ils? Hommes ou femmes? Voilà. Et si vous ne vous réveillez pas tous les jours à 6h du matin pour nous écouter à la radio, l'abonnement au podcast du Réveil Culturel est vivement recommandé, en passant par iTunes, franceculture.fr ou l'application podcast de Radio France, par exemple. C'est gratuit et ça peut se faire en quelques clics. Merci, Tiffaine Rivière, d'être passée.
Merci à vous.
L'invasion des imbéciles est éditée par Le Seuil. À la réalisation, Vincent Abouchard. À la coordination, Corinne Amard. Ce matin, la prise de son est assurée par Jean-Michel Bernaud. Bonne matinée.